Comment on va pouvoir circuler? Les règles de distanciation physique seront-elles imposées partout? Seront-elles d'ailleurs possibles dans tous les modes de transport? Apparemment, le train n'est pas l'avion et le décret gouvernemental qui vient d'être publié prévoit des régimes différents. Bonjour Raphaël Ebenstein.
Bonjour Frédéric.
Alors, 60% de taux d'occupation maximale des TGV et des cars, un peu plus d'une place sur deux. Pas de limite en revanche pour le transport aérien. Comment le ministère des Transports justifie ces différences entre les avions, les trains, les cars ?
Par le système de filtration à bord qui n'est pas le même. Il apparaît plus performant dans les avions, avec un renouvellement de l'air toutes les 3 minutes selon Air France grâce à des filtres de type HEPA, identiques à ceux qui équipent les blocs opératoires des hôpitaux. En clair, cela empêche la circulation du virus, même quand deux passagers ne sont pas séparés par une distance d'un mètre. De toute façon, le débat reste assez théorique, hein, puisque concrètement, le taux d'occupation des avions est aujourd'hui très loin d'atteindre les 100%, même seulement les 50%. Les passagers ne voyagent donc pas côte à côte. En outre, l'aérien applique une mesure spécifique, la prise de température systématique des passagers avant l'embarquement. Toute personne présentant de la fièvre ne peut pas monter dans l'avion. Ce n'est pas le cas, au moins pour le moment, dans les gares, avant d'emprunter un TGV.
Et pourquoi le taux d'occupation maximale des TGV a-t-il été fixé à 60% et pas à 50% comme on l'avait entendu ?
Pour une question purement technique, hein, selon le ministère des Transports qu'on a joint ce matin, l'aménagement des voitures de première classe permet en effet de faire voyager jusqu'à 60% des passagers sans que personne ne se retrouve côte à côte. Bref, la distanciation sociale peut être assurée. En revanche, la règle va bien rester d'une place sur deux seulement ouverte à la réservation dans les voitures de deuxième classe, ainsi que dans les cars Macron. Il n'était pas possible, nous indique le ministère, de publier un décret avec des pourcentages différents, d'où le choix d'avoir finalement retenu 60%. Là encore, on est quand même dans le théorique pour l'instant. Les compagnies de car Macron, Flixbus ou Blablabus sont en effet à l'arrêt complet au moins jusqu'à début juin et les TGV connaissent actuellement une fréquentation moyenne inférieure à 50%.
Mais ça n'empêche pas quelques petites frictions quand même entre les acteurs du transport et le ministère ?
Jean-Baptiste Djebbari était lui-même pilote de ligne hein, avant de devenir député puis secrétaire d'État, d'où une forme de soupçon sur le fait qu'il soit plus conciliant avec le secteur aérien. Des syndicalistes de la SNCF s'interrogent ainsi sur l'aide massive et quasi immédiate de l'État à Air France sous forme de prêts garantis, alors que la compagnie ferroviaire va accuser une perte de recettes sans doute supérieure à 2 milliards d'euros entre la grève contre la réforme des retraites et l'épidémie de coronavirus. Ce qui n'a pourtant donné lieu, en comparaison, à aucune annonce ferme de soutien financier de la part de l'État.
Et bien voilà donc le tableau précis. Merci Raphaël Ebenstein et je vous présente nos invités. Bonjour Gilles Dansart.
Bonjour.
Journaliste et directeur de Mobilettre, une lettre sur Internet sur la mobilité et les transports. Et bonjour à vous Anne-Marie Guémard.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération régionale des Auvergne-Rhône-Alpes de la FNOT, la Fédération nationale des associations des usagers des transports. Vous trouvez, Anne-Marie Guémard, que tout ça est clair, est simple et logique ?
Je suis très choquée, parce qu'on voit que l'aérien est très soutenu, alors que l'aérien est le mode de transport le plus polluant. En avion, quand on fait un trajet en avion, on émet 40 fois plus de gaz à effet de serre qu'en TGV. Et les gaz à effet de serre vont nous amener à la crise climatique. Donc, vraiment, soutenir l'aérien à ce point, c'est choquant.
Le virus circulerait moins à cause des systèmes de filtration à bord.
Bien sûr, je le crois. Si j'ai un voisin qui est infecté sans signe, il n'aura pas de température, il peut parfaitement avoir le coronavirus et je pourrais le côtoyer complètement. Et c'est non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je suis choquée quand je vois qu'il n'y a aucun soutien pour la SNCF, alors que c'est le mode de transport le plus écologique qui soit, celui qui ne pollue pas dans les villes, celui qui n'émet pas de gaz à effet de serre beaucoup moins que les autres, alors qu'en Allemagne, le gouvernement allemand vient d'allouer 7 milliards d'euros à la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF allemande, pour faire face à la crise du coronavirus et à développer le train. Et nous, qu'est-ce que nous avons ? Nous soutenons les avions. Je suis profondément choquée.
Et pour être clair, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il y ait les mêmes restrictions dans les avions ou que dans les trains, on soit autorisé à être à 100% de location des places ? Non, c'est tout le monde à 50% ou autour de 50%.
Tout le monde à 50% et surtout, on aide la SNCF qui doit augmenter le nombre de trains à la disposition des voyageurs, parce que la SNCF ne fait pas rouler que des TGV. Dans les TGV, on peut limiter sans problème à 50 ou 60%, et là, les distances sont garanties. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois très bien dans ma région, les trains express régionaux, qui sont les trains du quotidien qui emmènent les travailleurs dans la métropole de Lyon ou la ville la plus proche pour travailler, ces trains sont presque vides. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas confiance, parce que dans ces trains-là, c'est comme dans le Transilien, pas tout à fait comme le Transilien parisien, mais il y a quand même beaucoup de monde, surtout il y a des lignes qui sont très chargées d'habitude, avant le coronavirus. Et maintenant, les gens n'ont plus confiance, donc au lieu de prendre le train quand ils le peuvent, ils prennent leur voiture. Les trains roulent, effectivement, il y a 50% à peu près des TER qui roulent actuellement, mais ils sont presque vides.
Ils sont quasiment
vides. Oui. Là, il n'y a pas encore de bouchons sur les routes. Bon, pas encore, mais ça va venir, parce que pour le moment, il y a encore beaucoup de monde en télétravail, peu de gens se déplacent, mais dès que le travail va vraiment reprendre, eh bien, la circulation va augmenter, la pollution de l'air va augmenter, parce qu'on a quand même bien vu que les villes étaient asphyxiées par la pollution due au transport routier, et on repart de plus belle comme avant.
Donc, je voudrais le regard de Gilles Dansart. Ça veut dire, Gilles, qu'il y a peut-être friction en ce moment entre la SNCF et le gouvernement sur ces questions-là?
Ah, c'est sûr que à peine quelques mois après la grève suite à la réforme des retraites et puis moins de deux ans après la première grève suite à la réforme de la SNCF, les relations ne sont pas apaisées entre le gouvernement et la SNCF, ce qui explique effectivement cette différence de traitement, non pas sur l'aspect sanitaire, parce que il est établi aujourd'hui que les avions ont des dispositions de ventilation et d'air conditionné très efficaces. Très efficace. Et il y a des tests qui ont été menés et qui ne laissent pointer aucun doute sur ces aspects-là. Mais en revanche, sur le soutien financier, sur la stratégie de mobilité propre au ferroviaire, là, il y a une sorte de panne, parce que on est toujours dans d'une certaine façon, dans une défiance réciproque entre le gouvernement et la SNCF, et il n'y a pas de stratégie claire. Donc du coup, les investissements ne sont pas programmés, il n'y a pas de feuille de route, et les ministres d'ailleurs l'avouent en disant on va regarder la trajectoire financière, bon, il ne faut pas laisser tomber la SNCF, mais on a repris la dette, etc. Donc le ferroviaire n'est pas prêt, alors que l'aérien, d'une certaine façon, a très vite senti le vent du boulet, parce que Air France est une société mortelle et elle a décidé effectivement une trajectoire écologique plus forte. Alors on en pense ce que l'on veut, comme Madame Guémard, mais en tout cas c'est une entreprise qui s'est mobilisée pour se sauver, alors que d'une certaine façon dans le ferroviaire traîne les boulets d'années de défiance réciproque entre le politique et les cheminots et leurs dirigeants.
Et ben beaucoup de thèmes de débat, on poursuit la conversation, le temps de dérouler le fil info de 13h40. 41 même. C'est David Dauba.
L'ouverture des parcs et jardins à Paris réclamée par Anne Hidalgo est inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus en Île-de-France. Déclaration on ne peut plus claire donc de Sibeth Ndiaye, alors que la maire de Paris a une nouvelle fois réitéré sa demande ce matin. Parallèlement, la liste des plages rouvertes au public s'allonge depuis 8 heures. Les habitants de la Baule et du Pornichet peuvent aller s'y baigner, courir ou faire des sports nautiques. En revanche, pas question de s'asseoir, de s'allonger, encore moins de pique-niquer. Situation identique dans pas mal d'endroits. On peut citer les Sables d'Olonne ou encore l'Île-Dieu. Sibeth Ndiaye qui confirme également qu'Emmanuel Macron souhaite que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier prochain. Elle comprendra une part importante des personnes ayant contribué à la lutte contre le Covid-19 à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité. On a également appris ce matin que le fichier informatique Covid Contact destiné au suivi des malades et de leurs contacts est désormais autorisé par un décret paru au Journal officiel. Il entre en vigueur immédiatement, on parle bien de fichier et non pas de l'application. Il sera renseigné par les médecins ainsi que les agents des brigades de l'assurance maladie et des agences régionales de santé. Un but, permettre l'identification et l'orientation des personnes infectées ou présentant un risque d'infection.
France Info. Et tout est plus clair.
Pourquoi n'y a-t-il pas le même traitement pour les trains que pour les avions pendant cette période de déconfinement très progressif? Les stratégies des entreprises phares françaises de ce secteur-là dans cette crise sont-elles différentes? Air France et SNCF, on continue d'en parler avec nos invités, Anne-Marie Guémard de la Fédération nationale des associations des usagers des transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Gilles Dansard, notre confrère spécialisé, directeur de la lettre Mobilettre. Gilles Dansard, peut-être que, et ça, tous les modes de transport public sont confrontés à la même équation, c'est que c'est une mobilité de masse qui est rentable dans ces modes de transport, et là, on demande de la réduire.
Ah, tout à fait, il y a vraiment une collision des modèles. Tout a été fait depuis 20-30 ans, y compris dans le TGV depuis maintenant moins 5 ou 6 ans, pour retrouver un modèle de masse, de plus en plus de gens dans les transports. Donc c'est vrai dans le TGV, c'est vrai dans les zones urbaines.
C'est vrai dans l'aérien aussi.
Avec les low cost, avec des taux de remplissage très élevés. Donc c'est vrai dans tous les modes de transport. Et puis là, tout d'un coup, on passe à autre chose. Et donc au centre du jeu, il y a les voyageurs. Et il faut retrouver leur confiance. Donc ces débats, d'une certaine façon, ils risquent d'être réglés par la réaction des uns et des autres, comme le disait Mme Guémard. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver la confiance? À quel rythme? Est-ce que ça va être dans quelques semaines, si par bonheur le virus s'affaiblissait fortement? Est-ce que ce sera beaucoup plus long? On a tendance à penser depuis les événements des attentats de 2015 que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Sauf que là, la crise que l'on connaît, elle est tellement incertaine quant à son issue que tout le monde a peur que
effectivement... Et puis elle est longue, et puis elle dure.
Et que les gens ne retrouvent pas confiance dans les transports collectifs et donc se reportent sur la voiture individuelle ou sur le vélo.
Vous avez cette crainte, Anne-Marie Guémard, que cette défiance, elle dure ?
Oui, et puis on est dans un cercle vicieux parce que si les gens reprennent leur voiture, la pollution de l'air va augmenter. Or, la pollution de l'air, elle fait quand même 48 000 morts par an. C'est plus que ce qu'a fait actuellement le coronavirus. Donc, si la et en plus, elle aggrave les pathologies du coronavirus. Donc, on se croit à l'abri dans sa voiture. Il y en a même qui mettent un masque, je ne sais pas à quoi ça sert, dans leur voiture. Mais c'est faux. C'est faux parce que la pollution de l'air, elle pollue aussi l'intérieur des voitures. Donc, personne ne sera à l'abri de cette pollution-là. Et donc la voiture est une fausse sécurité.
Mais ce que vous demandez, vous, Anne-Marie Guémard, comme soutien, en tout cas manifestation de soutien de l'État à l'entreprise SNCF, ça pourrait ressembler à quoi aujourd'hui?
C'est une aide massive à la SNCF pour qu'elle puisse embaucher le personnel parce qu'elle est sous restriction, en particulier pour entretenir les voies. Ils sont complètement étranglés entre les travaux qu'on leur demande et les moyens qu'ils ont et qu'ils n'ont, qui sont totalement insuffisants. Donc pour faire les travaux rapidement et pour augmenter le nombre de trains, la maintenance, augmenter pour qu'il y ait plus de capacité et que les gens reprennent confiance dans les transports de la SNCF.
C'est pas forcément Gilles Dansard la ligne, en tout cas c'est pas ce qui a été vu, mis en place ces derniers mois, dernières années, mais après tout peut-être y aura-t-il un après qui ne ressemblera pas à l'avant, hein.
Oui, pour l'instant, c'est effectivement une sorte de malthusianisme ferroviaire. On réduit les moyens, on essaie de limiter ce qu'on appelle les pertes, alors que c'est quand même du service public. L'essentiel du ferroviaire, c'est les trains de banlieue, c'est les trains du quotidien et c'est du service public, au même titre que d'autres services essentiels. Mais pour l'instant, on n'a pas tourné cette page-là encore du côté du gouvernement, alors que il faut bien se rendre compte qu'une grande une partie de nos concitoyens n'ont pas le choix. Soit parce qu'ils n'ont pas de voiture, pour des raisons budgétaires ou de commodité dans les centres urbains, soit parce que leurs déplacements quotidiens ne sont pas compatibles justement avec un déplacement en voiture. Il n'y a pas de garage ou de parking à l'arrivée près de leur travail, etc. Donc il faut bien se rendre compte que on ne va pas changer du jour au lendemain les trajets domicile-travail ou les trajets domicile-études. Donc cette donnée-là, elle est incompressible et pour s'y adapter, il va falloir effectivement un réinvestissement dans les grandes métropoles notamment, mais pas seulement, pour faire en sorte qu'il y ait des alternatives à la voiture individuelle.
Pour en revenir à la situation du moment, et qui peut durer encore quelques semaines, peut-être quelques mois, on ne sait pas, Anne-Marie Guémard, est-ce que vous avez l'impression que l'urgence, l'impératif sanitaire dans les gares, dans les trains, il est bien géré en ce moment?
Ah oui, Alors vraiment, nous sommes vraiment associés, concertés par toutes les branches de la SNCF. Nous avons eu de nombreuses réunions et nous sommes tout à fait en phase avec la politique menée par la SNCF à ce niveau-là. En Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Bon.
C'est-à-dire du gel hydroalcoolique dans toutes les gares.
Oui, ils font tous les efforts de désinfection, des toilettes, des objets qu'on prend, enfin, tout. Oui. Ah oui, vraiment. En fait, les gens peuvent avoir confiance. C'est le mode de transport le plus sûr. Et si on a des masques, même si la distanciation sociale n'est pas totalement parfaite, on est quand même protégé, donc ça va mieux.
Alors, ça va mieux, dites-vous, dans les trains. Dans les avions, Gilles Dansa, il y avait un moment pas mal de polémiques sur... On a l'impression que dès qu'on sort de l'avion, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien. Maintenant, il y a prise de température, je crois, pour les passagers d'Air France. Est-ce que ça, c'est de nature, en tout cas, la volonté, c'est de redonner confiance?
Oui, c'est le même mot d'ordre, redonner confiance. Donc c'est vrai pour Air France qui prend la température, c'est vrai des gestionnaires d'aéroports qui ont aussi disposé des parcours de fléchage, etc. Mais dans un premier temps, ce qui assure, de certaine façon, la sécurité sanitaire, c'est qu'il y a peu de gens dans les aéroports et dans les avions. Donc c'est surtout l'après qu'on prépare, c'est-à-dire dans quelques semaines, le mois de juin, peut-être les vacances de juillet et août. Donc c'est vraiment une autre façon de concevoir ces parcours. Et là, tout le monde y travaille avec des mesures très, très appropriées. Et puis certainement aussi d'autres routes privilégiées. On va moins faire de la courte distance. On va plutôt privilégier effectivement les longues distances en avion. Donc c'est tout un monde qui se met en place et qui est assez intéressant à observer.
Eh bien, on va continuer à l'observer avec vous. Merci infiniment à tous les deux. Gilles Dansart, donc directeur de Mobilettre, une lettre spécialisée sur la mobilité et les transports. Et Anne-Marie Guémard, présidente de la Fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fédération nationale des associations des usagers des transports.